Chapitre 3. Revolver de police. La nuit, le bayou était un lieu fantomatique. Les arbres devenaient plus grands, comme des ombres qui disparaissaient jusqu'au ciel, et les lianes s'agitaient dans le vent à la façon d'une gigantesque toile d'araignée. L'eau et la boue se confondaient. Ce n'était plus qu'une étendue aussi brillante que d'hiver et aussi dangereuse qu'un piège à loup. Il y avait des bruits étranges, des cris d'animaux et des murmures de cauchemar, une odeur de pourriture et une haleine de prédateur. Je savais bien que c'était des bêtises. Les monstres, ça n'existait pas, et les fantômes non plus. Il n'y avait qu'un idiot comme Eddie pour croire à ce genre de choses. Cela dit, le bayou était vraiment un spectacle impressionnant la nuit, et ceux qui pensaient le contraire étaient encore plus bêtes que ceux qui croyaient aux fantômes, à mon avis. Après m'être faufilé hors de la maison, quand tout le monde dormait, j'avais ouvert la fenêtre pour descendre le long de la façade. T5 s'était réveillé juste au moment où j'enjambais le rebord de la fenêtre, mais il n'avait rien dit, car dans le cas contraire, je l'aurais salement cogné. T2, lui, ne se serait même pas réveillé si on avait tiré des coups de fusil. J'ai fendu l'obscurité en courant. Dans une main, je serrais une lanterne éteinte, et dans l'autre, le catalogue. Cela faisait 2 jours que je le feuilletais sans arrêt, encore et encore. J'avais presque l'impression de le connaître par cœur. Mais je revenais toujours à l'objet sur lequel mes yeux étaient tombés, le premier soir, lorsque maman s'était tellement mise en colère à cause de l'histoire des Fabronnes et qu'elle m'avait enfermée dans ma chambre comme un bagnard. Dans l'après-midi, Eddie avait réussi à se libérer et étant passé à la ferme, il m'avait laissé un billet avec un mot, un seul, écrit à l'encre bleue. Minuit. Le bayou commençait après le croisement. À partir de là, il fallait avancer au milieu d'herbes hautes jusqu'au torse, des mares invisibles et des arbres qui cachaient la lune. Un nigaud aurait allumé la lanterne, ce qui aurait été le meilleur moyen de s'attirer des ennuis. Avec la lumière, on n'arrivait plus à faire la différence entre la terre ferme et les sables mouvants. C'était un coup à finir à la baille, à se faire engloutir par le marais, et là, adieu. En plus, la lueur attirait les animaux, et si les feux follets, ça n'existait pas, les serpents, oui, aucun doute là-dessus. Sans m'en apercevoir, je m'étais mise à siffler, mais le son est mort dans ma gorge au bout de 2 pas. J'avais beau avoir une vue aussi perçante qu'un lynx, il ne fallait tout de même pas prendre le bayou à la légère une fois la nuit tombée. Soudain, j'ai cru entendre un bruit, une espèce de cri étouffé, et un voile blanc s'est agité entre les arbres avec un bruissement sinistre. Mes pieds se sont subitement transformés en racines, et je suis restée clouée au sol. Le voile apparaissait, disparaissait. Quand j'ai compris qu'il s'approchait, mes pieds se sont décidés à faire leur devoir, et je me suis mise à courir comme un dératé vers le pont branlant, avec la lanterne qui brinquebalait d'un côté et le catalogue qui agitait ses 2000 pages à droite, à gauche.
« Un fantôme ! Un fantôme ! Un fantôme !»
Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. J'avais fait 3 grandes enjambées et je me trouvais désormais sur le pont quand cette créature immonde m'a sauté dessus, m'a fait rouler par terre. Alors j'ai donné un coup de poing à l'aveuglette et la créature a crié « Aïe !» Elle avait exactement la même voix qu'Eddie. Et puis le drap a glissé. C'était bien lui avec ses lunettes de travers sur le nez. J'étais tellement en colère que je lui envoyais un coup de poing dans le ventre et un coup de pied. Ça lui apprendrait à faire des blagues idiotes. Il a d'abord essayé de répondre en me griffant comme une fille avant de s'apercevoir que je risquais de la mocher. Alors il a pris ce ton pleurnichard qu'il avait toujours quand quelqu'un le frappait. « Je ne voulais pas te faire peur, petit 3. Des clous ! Tu voulais que j'aie une attaque cardiaque ?»« C'est pas vrai. J'entrais en contact avec le marais et l'esprit du marais m'a ordonné de chasser les intrus. C'est des bêtises et je ne suis pas un intrus. »« Ben non, a admis Eddie, je sais bien. Mais l'esprit du marais n'est pas au courant, tu ne crois pas ?» Il avait peut-être raison, mais peut-être pas. Et puis ça m'agaçait d'être tombé dans ce piège comme un imbécile. Cela dit, je pouvais toujours me venger en faisant la même blague à Joju. Alors on s'est caché derrière un arbre. L'ennui, c'est qu'on a passé un moment sans les entendre venir, ni elle ni mine. Du coup, on en a eu assez et on a franchi le pont, puis les sables mouvants qui menaient au refuge. Un peu de lumière filtrait sous la porte en bois. Joju était déjà arrivée. Mine dormait, roulée en boule dans un coin, comme un ourson. Julie était assise sur une caisse défoncée, une bougie devant elle et la tête entre les mains. À peine entrée, je me suis aperçue que quelque chose n'allait pas. Primo, parce qu'au lieu de nous saluer, elle s'est contentée de nous lancer un coup d'œil en silence. Deux yeux parce qu'elle avait un bleu sombre au niveau du cou, de la taille d'une sangsue du bayou. Et ce n'était pas le genre de bleu qu'on se fait en tombant d'un arbre ou en loupant une marche d'escalier. Cela faisait maintenant un bon bout de temps que je connaissais Joju. Je l'aimais beaucoup, et je savais qu'il valait mieux la laisser tranquille les fois où elle avait ce genre de traces. Le problème, c'est qu'Eddie n'a jamais compris grand-chose. Il a remis ses lunettes d'aplomb sur son nez et s'est exclamé « Hé, Julie, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» C'était vraiment la chose à ne pas dire. J'ai cru que Joju allait se lever et bondir pour lui faire passer un sale quart d'heure. Mais non. Elle a tourné la tête et simplement répondu « Rien. » « Comment ça, rien ? Tu tires la tronche et on dirait que quelqu'un t'a... » Là, il s'est arrêté. Mon ami Eddie est peut-être un peu simplet, de temps à autre, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Il ne ferait jamais de mal à personne. Je me suis raclé la gorge en sortant le catalogue de sous ma chemise. Il avait été maculé de boue pendant que je me bagarrais avec Eddie au Pont-Branlant. Mais c'était le cadet de mes soucis. « Venez voir, regardez ce que j'ai trouvé !» Avec Eddie, on s'est assis autour de la bougie de Joju. Un court instant, j'ai levé les yeux vers mon ami, et ses yeux froids comme des cailloux. J'ignorais si c'était la mère de Julie qui lui avait fait ces bleus, ou quelqu'un d'autre, peut-être un des hommes qui passaient parfois par leur maisonnette à la lisière de la plantation. Quoi qu'il en soit, il valait mieux ne pas poser de questions et la boucler, parce qu'il y a des coups qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas, et d'habitude, ce sont précisément ceux-là qui font le plus mal. J'ai donc ouvert le catalogue pile au bon endroit, mais en ouvrant la page de ma main pour que les autres ne puissent pas voir tout de suite ce que j'avais trouvé. Et puis j'ai dit « Je sais comment dépenser nos 3 $. »« Comment ?» a demandé Eddie, qui a attrapé ma main pour l'écarter de là où elle était. Mais avais-je envie de me faire voler ma surprise comme ça, comme un benêt ? Non. Alors j'ai annoncé fièrement « On va s'acheter un revolver de police !» Et j'ai fini par leur montrer la réclame. Revolver de police à double action et chargement automatique. Calibre 38, canon rayé, arme sûre et fiable. Les parties sont démontables. Le pistolet coûtait moins de 2 $. Il resterait de l'argent pour les balles et les frais d'expédition. Et pourquoi pas quelques cents pour les caramels mous à la boutique de Monsieur Travers. En attendant, je me voyais déjà en train de me balader dans le village, le pistolet glissé dans ma ceinture comme un vrai shérif. Le dimanche, j'attendrais que ce bellâtre de Donnie le Beau sorte de l'église avec son chapeau tout neuf et PAN ! Je l'enverrais valser d'un seul coup. Ses amis se mettraient à rire, et Becky, qui n'avait Dieu que pour lui, n'aurait Dieu que pour moi, et... « Qu'est-ce qu'on va faire d'un revolver ?» a demandé Ed. « Hein ? Comment ça ?» Même Eddie Criquet ne pouvait pas poser une question aussi bête. « Je veux dire, tu n'as pas déjà un fusil chez toi ? Puis ça tire plus loin ?»« Fais un peu marcher ta tête, » me suis-je exclamé d'un ton légèrement agacé. « Tu vois qui c'est, Billy the Kid, Jesse James, Butch Cassidy ?» Derrière les verres de ses lunettes, les yeux de mon ami étaient gros comme des œufs. « Ce sont... des criminels ?» a-t-il bafouillé. « Non, pas juste des criminels, les plus grands criminels de l'Ouest. Et est-ce que les criminels, ils ont des fusils ? Bien sûr que non, ils ont des revolvers !» Eddie s'est gratté une oreille en réfléchissant intensément. « Je ne sais pas s'ils ont des revolvers, mais pour être honnête, si je dois toucher une cible, ce serait plus pratique avec un fusil. » Une fois, Joe l'Indien a même tué un ours comme ça. Avec un revolver, il n'y serait pas arrivé. « Évidemment qu'il n'y serait pas arrivé. C'est là que je veux en venir. Les fusils, c'est fait pour la chasse. Si les criminels ont des pistolets, c'est parce que c'est plus héroïque. Du coup, si on a un pistolet, on pourrait être des héros, nous aussi. »« Mais je ne veux pas devenir un criminel, moi » a-t-il marmonné. « C'est pour ça qu'on va acheter un pistolet de police. » C'est ce que dit la réclame, non ? Comme Eddie commençait à se laisser convaincre, je l'ai travaillé au corps en lui expliquant que ceux du village nous demanderaient de devenir shérif. Peut-être nous donnerait-il une étoile pour qu'on l'épingle à notre chemise. Tout le monde nous regarderait avec respect. On vivrait des tas d'aventures et on les se couvrirait de gloire comme dans les histoires des revues à un penny qu'on avait trouvé au milieu des papelards du papa d'Ed. Ça marche. Je saurais quoi faire avec un revolver. Ça, c'était Joju. Elle, qui était restée muette, avait subitement levé la tête et parlait dans un murmure. Au même moment, Mine a bâillé depuis sa couchette. Ça sonnait comme un oui. La réponse était réglée. Enfin, réglée, façon de dire. Si on voulait le revolver du catalogue, il nous restait un tas de choses à faire. On ne pouvait évidemment pas se rendre chez Monsieur Queneau, le postier, et lui confier la lettre avec notre commande.
Il risquait fort d'aller cafarder chez nos parents et ce serait un drame. Pire encore, M. Queneau pouvait se rendre compte que l'enveloppe contenait l'argent des frais d'expédition, l'ouvrir et empocher les sous pour sa pomme. Bref, il fallait réfléchir posément, car on n'aurait pas de seconde chance. Et c'est ainsi qu'on a passé le reste de la nuit à écarter des idées, et encore des idées, jusqu'à ce qu'on élabore un plan digne de ce nom. De nous tous, Eddie était celui qui lisait et qui écrivait le mieux. Puisqu'il ne manquait ni de papier ni d'encre chez lui, il s'est chargé de préparer la lettre en indiquant bien toutes les références, comme le pistolet, pour le pistolet, comme pour les balles. Choju, elle, a glissé dans sa poche le premier de nos $3 et s'est rendue à la droguerie du village afin d'acheter un timbre. C'était la seule d'entre nous qui pouvait se rendre où elle voulait sans qu'on la regarde de travers, sans doute parce qu'elle était toujours regardée de travers. Et puis personne ne s'étonnerait de la voir avec un dollar entier dans la main. De temps en temps, les amis de sa mère lui donnaient quelques pièces et elle faisait des courses pour sa mère, pour mine, pour tout le monde. Le fait est qu'il en fallait 3 des timbres, et ils étaient sacrément beaux. Le premier représentait un bateau à vapeur et les 2 autres un train roulant sur des rails dans un nuage de vapeur. On s'est même demandé une minute s'il ne valait pas mieux laisser tomber le pistolet et dépenser nos dollars en timbres. Quand tout a été prêt, j'ai dû remplir ma mission, la plus difficile comme toujours. J'ai pris la lettre, l'enveloppe, les timbres, un $0.50 pour les frais d'expédition et je me suis préparé pour la phase du dépôt. Monsieur Queneau a mené le courrier aux fermes de la zone une fois par semaine. Il partait du village tôt le matin avec sa carriole et faisait tout doucement sa tournée. Il remettait les courriers et récupérait ceux expédiés au bureau de poste de la Nouvelle-Orléans. Vers l'heure du déjeuner, Monsieur Queneau s'arrêtait manger dans l'une des maisons le long de la route, généralement chez les Fabronnes ou la plantation de coton de La Fontaine. Le soir, une fois de retour au village, il allait au bar boire un petit coup. Avec un peu de chance, il se dispenserait de contrôler une par une les lettres à expédier, surtout après 2 tournées de whisky. Il se contenterait peut-être de les prendre et de les remettre à la diligence pour la Nouvelle-Orléans. Tout un tas de choses pouvaient mal tourner, mais si on voulait le revolver, on n'avait pas tellement le choix. Le jour propice, je me suis éclipsée de la maison sans me faire remarquer. J'ai couru comme un dératé jusqu'au village et grimpé dans un cyprès confortable et élancé qui poussait au bord de la route. J'ai alors vu M. Queneau prendre à gauche au carrefour. C'était le signe qu'il faisait le grand tour ce jour-là. Il passerait chez les La Fontaine, c'était sûr et certain. J'ai donc pris cette direction pour l'attendre aux abords de la plantation. En réalité, j'espérais qu'il déjeunerait chez les Fabronnes. C'était comme chez moi là-bas. Les chiens me connaissaient, cela m'aurait vraiment facilité la tâche. Mais je comptais y arriver quand même. Je me suis faufilée entre les cases des noirs de la plantation. J'ai discuté avec les femmes et tant qu'à faire, je me suis fait offrir une tranche de melon. Quand Queneau est arrivé et qu'il est entré dans la cuisine pour manger, j'ai sauté dans sa carriole et caché notre lettre dans le sac du courrier au milieu des autres enveloppes. Mission accomplie! Ou du moins, il fallait l'espérer. Je suis rentrée à la maison où maman m'a fait une scène parce que j'avais subitement disparu. Ce soir-là, au refuge, j'ai informé mes amis que tout s'était bien passé et qu'il n'en restait plus qu'à attendre. Du coup, ma foi, on a attendu.